Il espérait que Myriam et Dorothy allaient disparaître, comme par enchantement. Il aspirait à recouvrer son sentiment familier de déficience. Juan Diego faisait un effort pour revenir à un état normal, outre qu'il essayait, mieux vaut tard que jamais, de respecter la posologie de son traitement. Il pensait souvent au docteur Rosemary Stein, et pas toujours en sa qualité de médecin. Cher docteur Rosemary, commença-t-il à taper de nouveau assis sur le siège des toilettes avec son portable si abscond dans les mains. Il aurait voulu lui dire qu'il avait pris des libertés avec son traitement de l'oppresseur, lui parler de ses circonstances imprévisibles, de ces deux femmes intéressantes, sinon intéressées. Et puis il voulait lui assurer qu'il n'était pas seul, qu'il n'était pas malheureux. Il voulait enfin lui promettre qu'il allait arrêter de faire l'imbécile avec les doses de bêta-bloquants. Mais écrire ne serait-ce que « Cher docteur Rosemary » lui prenait un temps fou. Cette saleté de portable était une offense à n'importe quel écrivain. Il n'avait jamais su sur quelle touche appuyer pour mettre une lettre en majuscule. C'est alors qu'une solution plus simple lui vint à l'esprit. Il lui suffisait d'envoyer à Rosemary la photo qu'il représentait avec Myriam et Dorothy dans la gare de Kowloon. Ainsi, le message serait à la fois plus court et plus amusant. « J'ai rencontré ces deux femmes pour lesquelles j'ai un peu négligé mon traitement de l'oppresseur. N'aie crainte. Me voici redevenu sage sur le droit chemin de l'abstinence. Affectueusement. » Ce serait la façon la plus simple d'avouer la chose au docteur Rosemary, en somme. Et le ton n'était pas celui de quelqu'un qui s'apitoie sur son sort. Aucune trace de nostalgie pour avoir laissé passer sa chance le soir ou dans la voiture, sur Dubuque Street. Rosemary lui avait pris le visage entre ses mains en disant « J'aurais dû te demander un mariage. » Le pauvre Pete était au volant. Rosemary avait tenté de se rattraper. « Je voulais dire que j'aurais pu te demander. » Il était certes préférable pour l'un comme pour l'autre de ne pas revenir sur ce qui s'était passé ce soir-là. À présent, comment allait-il lui envoyer cette photo prise dans la gare de Kowloon? Il ne savait même pas comment la retrouver dans cette vacherie d'appareil, et moins encore comment joindre une photo à un texto. Sur le clavier exaspérant du petit téléphone, il avait du mal à trouver la commande « supprimer ». Rageur, il effaça lettre par lettre son message à Rosemary. Clark French saurait dénicher la photo de Kowloon et pourrait lui montrer comment la joindre au message. « Il sait tout faire, Clark French, sauf en ce qui concerne la pauvre Leslie », pensa Juan Diego en boitillant vers le lit. Aucun chien n'aboyait, aucun coq ne chantait. Mais, tout comme le soir du nouvel an à l'Encantador, Juan Diego ne discernait pas la respiration de Myriam. Elle était endormie, couchée sur le côté gauche, et lui tournait le dos. Il se dit qu'il pourrait s'allonger contre elle et l'entourer de son bras. Il voulait sentir si son cœur battait. Le docteur Rosemary Stein aurait pu lui apprendre que le pouls est bien plus perceptible en d'autres points du corps. Naturellement, Juan Diego passa la main sur la poitrine de Myriam et ne sentit pas battre son cœur. Tandis qu'il la palpait à l'aveuglette, ses pieds touchèrent ceux de Myriam. Si c'était une femme faite de chair et non un spectre, elle devait l'avoir senti. Quoi qu'il en soit, Juan Diego essayait courageusement d'approfondir sa connaissance du monde des esprits. Un garçon né à Huachaca ne pouvait être étranger à ce monde-là. Sa ville était pleine de saintes vierges. Même ce lieu dédié aux fêtes de Noël, la boutique de bondieuserie de la Calle de Venecia, bourrée d'affriolantes répliques des fameuses vierges locales, avait un petit côté sacré. En outre, Juan Diego était passé par les enfants perdus. Les religieuses et les deux vieux prêtres de l'église de la Compagnie de Jésus lui avaient révélé un peu du monde spirituel. Même Rivera, le patron de la décharge, était un croyant fervent, adonné au culte marial. Juan Diego n'avait pas peur de Myriam et de Dorothy, quelle que fût leur essence. Comme le disait El Jefe, « Pas besoin du tampon de l'église pour valider le miracle, on sait ce qu'on a vu. » Qu'importait au fond la nature de Myriam? Les deux femmes étaient-elles des anges de la mort venus le chercher? Il lui en fallait plus pour l'impressionner. Elle ne serait ni son premier ni son seul miracle. Loupé l'avait dit, c'est nous le miracle. C'était à cela que Juan Diego croyait, ou plutôt qu'il voulait croire sincèrement. tout en continuant à caresser Myriam, dont la soudaine et ample respiration le fit sursauter. « C'est une nuit l'oppresseur, je présume, » lui dit-elle d'une voix sourde et rauque. Il essaya de lui répondre de façon détachée. « Comment le sais-tu ? Tes mains et tes pieds, chérie, ils sont déjà froids. » C'était vrai. Les bêta-bloquants réduisent en effet la circulation du sang dans les extrémités. Juan Diego ne se réveilla pas avant midi ce dimanche-là. Il avait les mains et les pieds glacés. Il ne fut pas surpris de constater que Myriam était partie sans un mot. Les femmes savent quand les hommes ne les désirent plus. Qu'elles soient fantômes ou sorcières, déesses ou démones, anges de la mort, vierges ou femmes ordinaires, elles pressentent toujours qu'on ne veut plus d'elles. Juan Diego se sentait tellement diminué. La journée de dimanche était passée très vite et ne lui resterait pas en mémoire. Ce demi-comprimé supplémentaire de l'oppresseur avait été superflu. Le soir, il jeta l'autre moitié dans les toilettes et tira la chasse d'eau. Il ne prit ensuite que la dose prescrite. Il allait se rendormir jusqu'au lundi midi. Si quelque chose se passa ce week-end-là, il n'en sut rien. Les étudiants en littérature de l'université de l'Iowa avaient qualifié Clark French de bon samaritain, d'intello coincé, et il faut bien dire qu'il avait eu fort à faire avec Leslie pendant que Juan Diego dormait. « Je crois que la pauvre Leslie se préoccupe surtout de votre bien-être. » Ainsi commençait son premier texto. D'autres suivaient, la plupart concernant la conférence publique. « Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander qui est le véritable auteur des œuvres de Shakespeare, et nous contournerons au mieux la question de la fiction autobiographique. » Mais la pauvre Leslie réapparaissait dans d'autres messages. Leslie dit qu'elle n'est pas jalouse. Elle ne veut plus entendre parler de D. Je suis sûr qu'elle appréhende sincèrement les envoûtements que D peut exercer sur vous. Werner a dit à sa mère que D a incité le buffle à le charger et à le piétiner. Elle lui aurait fourré une chenille dans les naseaux. L'un des deux ment, conclut Juan Diego. Il croyait Dorothy capable d'enfoncer une chenille dans les narines d'un buffle. Cela dit, le jeune Werner en était sans doute tout aussi capable. Une chenille vert et jaune avec du marron autour des yeux ? Demanda-t-il à Clark en réponse à son texto. Effectivement, répondit son ancien élève. Le gamin avait dû la regarder de près, cette chenille. C'est vraiment de la sorcellerie, écrivit-il. Je ne couche plus avec Dorothy ni avec sa mère. La pauvre Leslie assistera à notre conférence de ce soir. D y sera-t-elle aussi ? Avec sa mère ? Leslie s'étonne que D est une mère, en vie, qui plus est. Oui, Dorothy et sa mère seront là. Ce fut le dernier texto que Juan Diego retourna à Clark. Il ressentit quelque plaisir à le taper. Il observa que, une fois l'adrénaline bloquée, il était moins stressant de faire des choses futiles. Ce qui expliquerait que les retraités se satisfont du jardinage, du golf et d'autres conneries de ce genre, comme envoyer des textos en tapant avec un doigt une lettre après l'autre, se demandait Juan Diego. Est-ce que les futilités sont plus supportables quand on se sent diminué ? Les journaux télévisés ainsi que le quotidien distribué dans sa chambre d'hôtel ne parlaient que de la procession du Nazaréen noir à Manille. Il n'y était question que de la vie locale. A tellement survolé la journée du dimanche, il n'avait pas remarqué qu'il avait plu sans discontinuer. Une mousson de nord-est, annonçait le journal. Malgré le mauvais temps, environ 1 700 000 catholiques philippins, pieds nus pour la plupart, avaient suivi la procession, encadrés par 3 500 policiers. Les années précédentes, on avait déploré de nombreux blessés. 3 pèlerins étaient tombés ou avaient sauté du pont Quesson, selon les gardes-côtes. Ces derniers avaient aussi rapporté qu'ils avaient dépêché plusieurs équipes de patrouille sur la rivière Pasig, non seulement pour assurer la sécurité des pèlerins, mais aussi pour empêcher que des éléments incontrôlés ne viennent bouleverser le scénario habituel. Quel scénario ? Se demanda Juan Diego. La procession se dispersait toujours à l'église de Quillapo, où s'accomplissait le pahalik, rituel consistant à poser ses lèvres sur le Nazaréen noir. L'église était pleine à craquer.